Soft Power. L'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Ce soir, nous évoquons le transhumanisme avec vous, Luc Ferry, philosophe, chroniqueur au Figaro, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et vous préparez d'ailleurs un ouvrage qui paraîtra au printemps 2016, qui concerne notamment le transhumanisme. Alors, on va définir le terme d'abord, l'expliquer ensuite, en débattre enfin. Marjorie Paillon, pour commencer.
Vous savez ce que c'est, Frédéric, la loi de Godwin ?
Oui, absolument.
Oui, plus une discussion dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison avec Hitler est grande. Eh bien, en ce moment, on peut se dire que le transhumanisme, c'est le nouveau point Godwin de la technologie. Le transhumanisme, c'est le rêve d'un homme augmenté, amélioré, transcendé par la biotechnologie et par la science. Et en la matière, il y a un personnage incontournable, Dr. Ray et Mr. Kurzweil. Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef chez Google, profession futurologue. Et elle est belle cette profession puisque justement...
On aimerait être tous des futurologues.
On aimerait être tous des futurologues. À 80 ans, Ray Kurzweil, c'est donc le chef de file, le pape même du transhumanisme dans la Silicon Valley. C'est également le cofondateur de l'université de la singularité qui inquiète beaucoup. Luc Ferry nous en parlera dans un instant. Cette université de la singularité, c'est finalement un cluster, un endroit où tout ce qui se fait de plus geek et de plus clinquant dans la Silicon Valley se retrouve. Entrepreneurs, évidemment experts, également penseurs de la Silicon Valley pour essayer de comprendre et d'appréhender le mieux possible toutes ces nouvelles techniques et ces technologies de rupture. On rêve d'un homme cyborg chez Ray Kurzweil, de la vie éternelle, de l'intelligence artificielle qui serait finalement la suprématie de tout ce courant de pensée. On tente de reprogrammer la biologie et si on regarde sur un calendrier, finalement la vie selon Ray Kurzweil, ce serait tout simplement en 2021 l'accès à Internet sans fil qui couvrirait 85% de la surface de la Terre. Ça vous me direz, facile à faire. Jusque-là, tout va bien. En 2025, l'apparition d'un grand marché des gadgets implants. Peut-être un peu plus difficile. En 2027, le robot personnel qui serait capable d'accomplir des actions complexes en toute autonomie et qui serait aussi anodin qu'un réfrigérateur ou qu'une machine à café. Et puis finalement, d'ici 2045, l'immortalité.
L'immortalité. Alors Luc Ferry, avant de poser les problèmes de fond, sur le plan éthique aussi notamment, comment est-ce que vous avez compris cette notion de transhumanisme sur laquelle vous travaillez ?
Ce qui est dommage, c'est que Kurzweil est le moins intéressant dans cette histoire. C'est vraiment celui pour lequel... c'est un grand délirant, quoi. Il prend 60 pilules par jour. Enfin, c'est vraiment pas le plus intéressant. Non.
Lesquels seraient plus intéressants ?
Oh, il y en a beaucoup. Par exemple, si ceux qui nous écoutent veulent lire des choses intéressantes en français, parce que la littérature est surtout américaine, il y a des milliers d'articles et de livres parus aux États-Unis et en Allemagne sur le sujet. Il y a des livres de Michael Sandel, de Fukuyama, de Habermas, par exemple, donc des plus grands penseurs aujourd'hui américains ou allemands. Mais si vous voulez lire quelque chose de vraiment intelligent sur le transhumanisme dans l'état actuel des choses en français, Gilbert Ottois. Un tout petit livre, mais formidable. Le transhumanisme est-il un humanisme ? Ça parodie un titre de Sartre. Oui. Et puis surtout, je dirais Laurent Alexandre, La mort de la mort et la défaite du cancer. Ou Guy Valencien. Laurent Alexandre et Guy Valencien sont tous les deux des
Alors,
grands
profs de médecine.
Alors comment
est-ce que vous expliquez cette notion ? Ça veut dire
Alors,
quoi,
très
concrètement ?
Simplement, non, la base de la base, si vous voulez vraiment comprendre de quoi il s'agit, à part les trucs plus ou moins délirants autour de Kurzweil, non, si vous voulez comprendre vraiment de quoi il s'agit, c'est l'idée suivante. C'est que... pendant des millénaires, la médecine a fonctionné uniquement sur un modèle thérapeutique. Thérapeutique, c'est-à-dire qu'il s'agissait de soigner, de réparer. On était malade et puis le médecin arrivait, un peu comme le juge réparait la cité dans la mythologie grecque ou dans la philosophie grecque. Et donc, on était dans un modèle qui était exclusivement thérapeutique. Et puis, les transhumanistes proposent quelque chose, c'est de passer d'un modèle thérapeutique à un modèle augmentatif, au sens où on parle de réalité augmentée quand
l'augmentation virtuel... L'augmentation de l'individu.
Voilà, enhancement, ça s'appelle en anglais.
Amélioration.
Amélioration, augmentation. Et c'est rendu possible, cette amélioration. Alors évidemment, il y a des maillons intermédiaires entre le transhumanisme et la médecine classique. Par exemple, les drogues, le Viagra, mais aussi la chirurgie esthétique sont des modèles intermédiaires. Par exemple, la chirurgie esthétique, la laideur n'est pas une maladie. Donc on a bien utilisé la médecine pour aller améliorer les choses. C'est une médecine améliorative. Le Viagra, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est aussi une question d'augmentation. Ce n'est pas une question de réparation, on va proprement en parler. voulez. Bon. Et donc, les transhumanistes prennent volontiers un exemple. Ils disent, voilà, soit deux nains, hein, deux personnes très, très petites, mettons deux hommes d'un mètre 40, par exemple. L'un, parce qu'il a été malade. Non, non, on ne les voit pas à la radio, évidemment, mais ils sont en train de se montrer les uns les autres en rigolant. Un nain qui a été frappé de nanisme parce qu'il a été malade, et un autre qui, simplement parce qu'il a des parents tout petits. Bon. Et donc, ce que disent les transhumanistes, il n'y a aucune raison de soigner l'un et pas l'autre à partir du moment où les deux souffrent également dans une société qui valorise à tort ou à raison la grandeur. Et donc, le projet transhumaniste, il est là. Et qu'est-ce qui l'a rendu possible? Parce que sinon, on pourrait remonter à la mythologie grecque, à Asclépios ou au mythe de Sisyphe, à qui voudrait. Mais on a là quelque chose. À ceux qui sont les trompe-la-mort, hein. Sisyphe et Asclépios, ce sont ceux qui veulent lutter contre la mort, qui enferment Thanatos dans un placard. Bon. Non, mais ce qui a rendu possible cette nouvelle version, si je puis dire, de la médecine, et qui fait que, y compris des médecins très sérieux comme Guy Valencien ou Laurent Alexandre rentrent dans ce mouvement-là. Bon, ce qui l'a rendu possible, c'est de nouvelles technologies qui sont très intéressantes parce que c'est quasiment les mêmes que dans l'économie collaborative. C'est-à-dire les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie,
informatique et cognitivisme.
Cognitivisme, ça veut dire intelligence artificielle. Et quand on dit informatique, ça veut dire essentiellement big data et objets connectés. Et puis plus les imprimantes 3D et la robotique.
Et tout ça forme les NBIC.
Les NBIC, plus 3D, plus robotique. Et ça va évidemment permettre la biochirurgie, par exemple, la médecine aussi régénératrice, va permettre en effet d'ouvrir la porte à cette augmentation de l'être humain. Et ça pose un problème philosophique énorme. Est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas?
Marjorie Paillon.
Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une question qui est aussi vieille que la science?
La question, oui, mais la réponse, non. Et donc là, aujourd'hui, des gens apportent des réponses parce qu'on a la possibilité aujourd'hui, notamment grâce à une invention franco-américaine, une jeune femme, une jeune biologiste française qui a inventé cette technique de couper-coller de l'ADN, qui est absolument fantastique, qui modifie complètement la donne en matière de biochirurgie. Et alors, même aussi, si on se bornait à la médecine régénératrice, notamment à l'usage des cellules souches, on aurait déjà des progrès extraordinaires dans le domaine médical, avec la possibilité aujourd'hui de fabriquer une humanité qui serait différente de l'humanité actuelle, qui serait augmentée, au sens, encore une fois, on parle de réalité augmentée. Et là où Kurzweil, évidemment, va beaucoup plus loin que les autres, mais à mon avis de manière délirante, c'est que lui, il est carrément post-humaniste, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, lui veut inventer une espèce humaine qui ne soit plus l'espèce humaine, donc il veut dépasser l'espèce humaine, avec notamment l'hybridation homme-machine, qui d'ailleurs va aller très très vite. Vous savez qu'il y a déjà un cœur artificiel, entièrement artificiel, qui fonctionne, d'ailleurs je touche du bois parce qu'il fonctionne encore très bien sur la personne, le troisième greffé en France. Bon, et donc on a évidemment maintenant la possibilité de techniques d'hybridation, de manipulation génétique, de médecine régénératrice, etc., qui vont ouvrir la porte à ce transhumanisme, qui peut devenir éventuellement un post-humanisme, mais évidemment ces questions se posent, et de très nombreux rapports, aussi bien aux États-Unis que dans la Commission européenne, par exemple, ont été consacrés extrêmement sérieux à cette question qui est évidemment, encore une fois, très problématique sur le plan scientifique, mais aussi éthique et philosophique, même spirituel, je dirais. La longévité humaine va probablement s'accroître dans des proportions assez considérables dans les décennies qui viennent.
Emmanuel Paquette.
Mais on voit bien que derrière tout ça, il y a quand même une nouvelle forme de religion qui apparaît, on peut appeler ça des technoprophètes, portés par notamment Google, qui est un des grands financiers aujourd'hui de la Singularity University. Oui. Est-ce que tout ça n'arrive pas à un moment où, entre guillemets, Dieu est mort? Et donc maintenant que Dieu est mort, il faut le remplacer par quelque chose d'autre, et aujourd'hui on le remplace par la technologie.
Si on commence à interroger Luc Ferry sur Nietzsche, je pense qu'on a
non,
pas
c'est
fini.
Pas ça, mais non, ce qui est vrai dans ce que vous dites et que je retiendrai très volontiers, c'est que nous vivons dans des sociétés qui sont à la fois plus affectives que jamais, pour des raisons que je ne vais pas raconter là, mais parce qu'on est rentré dans le mariage d'amour, dans la famille d'amour, dans la famille moderne. Et donc on est extrêmement affectif aujourd'hui, on est dans une société très affective et très psy, et en même temps nous sommes moins protégés que jamais par rapport à la question de la mort, du deuil, parce qu'on est moins croyant qu'avant. On est clairement moins croyant qu'avant. Non seulement il y a beaucoup d'athées, mais les croyants eux-mêmes sont moins croyants qu'avant. Ils croient très peu à la virginité de la Vierge ou à la résurrection de Lazare aujourd'hui. Et donc on est à la fois plus exposé au tourment du deuil, quelques formes qu'ils prennent, et en même temps, on est moins protégé par les filets de sécurité des grandes religions. Ce qui fait que la question de la longévité humaine, de la santé, la question de la mort, évidemment, a fortiori, deviennent des questions extraordinairement préoccupantes pour
Mais est-ce que le transhumanisme est nécessairement négatif et pose des
non,
problème ou est-ce qu'on peut voir tout un domaine qui peut se développer positivement?
Mais bien sûr que ça va se développer positivement pour une raison que les anti-transhumanistes ne veulent pas voir, bien, même s'il y en a des très intelligents. Habermas est évidemment quelqu'un de très intelligent. Mais Habermas est très nuancé sur la question parce qu'il accepterait des manipulations génétiques qui serviraient par exemple à éradiquer définitivement des maladies effroyables comme la chorée d'Huntington ou la mucoviscidose ou que sais-je. Si on parvenait, posez-vous la question, c'est ça le transhumanisme, si on parvenait à faire des manipulations génétiques dans le génome, enfin dans les de cellules embryonnaires humaines, donc on peut modifier l'espèce hein, potentiellement. Et donc si on parvenait à faire des manipulations génétiques qui aient pour finalité d'éradiquer ces maladies, qui ne le ferait pas? À part quelques sectes ou quelques religions qui vont résister. Mais je vous donne un chiffre qui est très frappant. 97% des femmes qui font une amniocentèse et qui découvrent que leur fœtus est atteint d'une trisomie 21 avortent. Donc on est dans l'eugénisme libéral, mais ce n'est pas l'eugénisme de Hitler, c'est un eugénisme libéral. Et donc on a là, évidemment, quelque chose, il faut prendre dans ce sens-là. Et à la limite, si on ne faisait pas ces manipulations génétiques, nos enfants nous reprocheraient de ne pas les avoir faites. Vous voyez, s'ils attrapent la chose.
Donc robotisation... Donc
c'est juste pour compliquer les choses que je dis. Évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Je ne suis pas du tout un fanatique kurzweilien. Enfin, franchement, ce n'est pas ma thèse.
On l'a compris.
Mais en même temps, je trouve que les thèses de Fukuyama ou Sandel ou même Habermas sont extrêmement limitatives et que dans ces progrès, il y a des progrès réels. Il n'y a pas que du fantasme.
Donc la machine prenant le dessus sur l'homme, le corps connecté, le cerveau, pourquoi pas, dans une clé USB, Emmanuel Paquette.
Oui, et du coup, on voit...
Ça, c'est délirant, ça.
Pour l'instant.
Oui.
Mais on voit apparaître quand même des velléités de partis politiques, des partis transhumanistes qui sont
sûr.
En train de se créer un peu partout.
Oui, il y aura un candidat aux élections présidentielles.
Vous pourriez... porter cet élan transhumaniste en France ou est-ce que vous en seriez simplement observateur?
Non, moi je suis... Non, je pense que...
Vous voyez, Il est agnostique sur le transhumanisme.
Non, pas du tout. Pas agnostique non plus, pas ça. Mais mon livre porte à la fois sur l'économie collaborative et sur le transhumanisme. Parce qu'il y a un point commun qui est big data, intelligence artificielle, objets connectés. Tout ça fonctionne de la même manière. Quand vous parlez l'autre jour, j'étais avec le patron de Google France, qui est un type très sympathique, Nick Leader, qui est intelligent. Il me dit, nous, Américains, quand on pense big data, objets connectés, et on dit qu'il y aura peut-être 300 milliards d'objets connectés d'ici 2025. Bon, quand on pense Big Data, on pense à la lutte de Google contre le cancer. On pense aux services rendus aux consommateurs. Vous, en Europe, vous pensez non pas service consommateur, mais protection citoyen. Bon, voilà, c'est comme si eux avaient une voiture sans frein et nous une voiture sans accélérateur en Europe. Bon, voilà, c'est quand même le fond du problème. Donc moi, je pense que dans les deux cas, que ce soit du côté de l'économie collaborative, on a découvert l'économie collaborative en Europe avec Uber Pop cette année. Avant, on ne savait même pas ce que c'était. Bon.
Et donc, et puis Airbnb,
le scandale.
Etc.,
ouais. Oui, mais c'est surtout Uber Pop qui a fait prendre conscience aux politiques que le truc existait. Avant, il n'y avait pas un type à l'Assemblée nationale qui en parlait. Pas un. Citément un. Bon. Et donc, ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Personne n'avait lu vraiment Rifkin. Les gens ne voyaient pas le truc. Je parle dans le milieu des décideurs. Il y a quelques journalistes, quelques intellectuels. Mais dans le milieu politique, ils ne savaient pas ce que c'était. D'ailleurs, la première chose qu'ils aient faite, c'est d'interdire Uber Pop. Bon. Et donc, là où il y a un vrai problème, c'est que du côté de l'économie collaborative, comme du côté du transhumanisme, on va avoir un problème de régulation. Le mot « régulation » va devenir absolument central dans cette problématique. Contrairement à ce que dit Rifkin de manière absurde, mais grotesque, c'est un imposteur. C'est pas du tout, mais c'est vrai, c'est évident, on va pas du tout vers la fin du capitalisme. On va vers la dérégulation et la marchandisation d'actifs privés. C'est ça Airbnb, c'est ça Blablacar, c'est ça Drivey, etc. Donc c'est dérégulation et marchandisation du monde, d'abord et avant tout. Et donc marchandisation de son appartement, de sa voiture, qui autrefois étaient des actifs privés, pas des actifs marchandisés. Et donc on va aller vers une très grande dérégulation et donc le problème aussi bien côté transhumaniste que du côté économie collaborative, ce sera justement de sortir de cette absurde antinomie où on interdit tout, on autorise tout. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on adore en France. On est dans le débat théologique, on est pour, on est contre. Mais non, je suis pour et contre. Voilà. Et donc, régulation, ce sera le fin mot des 10 ans qui viennent. Mais il faut d'abord que les... Vous voyez, juste un tout petit point encore. Ce sera très difficile parce que ce sont des technologies qui sont très sophistiquées et qui vont très très vite, ce qui fait qu'on touche aux limites techniques de la démocratie. Et ça, c'est un vrai problème fascinant. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cette...
Le livre de Luc Ferry, notamment, sur le
mais
transhumanisme, paraîtra au printemps de 2016. Merci d'avoir teasé un peu ce livre dans l'alphabet numérique. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mots-clés Soft Power, tout ce qu'on a cité ce soir. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'alphabet numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de cet alphabet numérique que nous construisons lettre après lettre chaque semaine, consultez notre page alphabetnumérique.com.